Le but dans la vie, c'est de devenir la meilleure version de soi-même et dans tout ce qu'on fait. Donc, j'encourage tout le monde à donner le meilleur et le résultat, après, c'est qu'un résultat, finalement.
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongiste professionnelle, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Bienvenue à toutes et à tous dans l'avant-dernier épisode de la saison 2, où nous avons l'immense plaisir de recevoir une véritable gladiatrice dans son domaine, la vice-championne olympique et actuelle numéro 1 mondial du pentathlon moderne, Élodie Clouvel. L'escrime, la natation, l'équitation, la course à pied et le tir au pistolet forment les 5 épreuves de sa discipline. Vous trouvez que ces sports n'ont aucun rapport les uns avec les autres ? C'est certain, et cela témoigne de la capacité d'adaptation hors du commun de notre nouvelle invitée, qui détient également en elle un pouvoir inestimable, celui de transformer ses rêves en réalité. Partez à la découverte de toutes les Hello, la native de Saint-Étienne qui a suivi la voie de ses parents, la vice-championne olympique déçue et incapable de lever les bras sur la ligne d'arrivée, ou encore la future actrice de cinéma. Solaire, épanouie et déterminée, Élodie Clouvel est convaincue que le but de la vie est de devenir la meilleure version d'elle-même. Et après l'avoir rencontrée, nous aussi. Salut Élodie !
Salut Cléo !
On est super contente d'accueillir la vice-championne olympique de pentathlon moderne dans le podcast. Je lance déjà tes titres au début même de l'épisode. Ta discipline, du coup, c'est le pentathlon moderne.
C'est ça.
Alors, pour ceux qui n'identifient pas trop ce qu'est le pentathlon, c'est 5 disciplines. L'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied.
Exactement.
Voilà, donc 5 disciplines qui sont assez différentes, pour le coup, on peut dire ça.
Totalement différentes, ouais. Pour le coup, c'est clair qu'il faut des qualités vraiment différentes et d'adaptation pour s'adapter à chacun des sports, parce qu'il n'y en a aucun qui correspond à un autre. Du coup, c'est vraiment chaque discipline, voilà, chaque sport a sa particularité.
T'as commencé le pentathlon moderne, je crois, en 2008, c'est ça ?
C'est ça, septembre 2008.
À la base, tu venais de la natation.
Exactement.
Le pentathlon moderne, je crois qu'on est venu te chercher. Est-ce que avant qu'on soit venu te chercher par la fédération de pentathlon moderne, en fait, qui est venue, qui t'a détecté, on va dire, est-ce que tu connaissais cette discipline avant de t'y mettre ?
Je connaissais cette discipline parce que quand j'étais en sport-études à Font-Romeu, il y avait des pentathlètes qui s'entraînaient. Enfin, il y avait un pôle pentathlon moderne à Font-Romeu. Et en fait, avant de faire de la natation, j'avais été détectée aussi toute jeune. Je crois que c'était à l'âge de 13 ans, sur un cross UNSS et en natation aussi. Et j'avais été avec mon père à Aix-en-Provence, là où il y a un pôle de pentathlon moderne aussi. J'avais pu tester en fait le pentathlon et j'avais passé des petits tests en pentathlon et j'avais été prise, mais du coup j'étais partie moi pour aller dans la natation, donc j'avais accepté la proposition de Font-Romeu de rentrer en pôle espoir natation à l'époque. Et après j'ai connu le pentathlon, mais je m'intéressais pas plus à ce sport que ça. Enfin, j'étais vraiment dans la natation à l'époque et c'est ensuite après qu'est venue mon envie de faire du pentathlon.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du pentathlon après la natation?
Le pentathlon moderne, en fait, est venu à moi tout simplement. J'ai été recrutée après ma non-qualification aux Jeux Olympiques de Pékin en natation. Ouais. À l'époque, je m'entraînais avec Philippe Lucas, puisque j'avais quitté le Pôle France de Font-Romeu pour m'entraîner avec Philippe Lucas à Canet-en-Roussillon. Et je ne me suis pas qualifiée aux Jeux Olympiques. Donc, la fédération, entre-temps, avait vu mes performances en natation. J'avais fait championne de France de cross UNSS en junior. Donc, j'avais un très bon niveau en course.
Tu cochais déjà 2 cases sur les 5, on peut dire ça.
Exactement. Et j'avais déjà fait un petit peu de poney quand j'étais jeune. Mais bon, c'était vraiment des balades, quoi. Mais sinon, je connaissais rien du tout à l'escrime. Je connaissais pas le pistolet, enfin le tir au pistolet et tout. J'avais jamais fait. Et l'équitation, saut d'obstacle, monter sur des chevaux, je l'avais jamais fait non plus.
Mais c'est sûr qu'entre le poney et sauter des obstacles à cheval, il y a une petite différence forcément.
Effectivement, il y a quand même une différence. Et c'est vrai que la particularité du pentathlon moderne, c'est qu'on ne connaît pas nos chevaux en compétition. Il y a un tirage au sort des chevaux et c'est une vraie qualité d'adaptation de découvrir un cheval qu'on ne connaît pas, d'avoir 20 minutes de détente avec le cheval, pour ensuite aller sur un parcours d'obstacles avec 15 obstacles, dont deux combinaisons, un double, un triple, et ensuite partir sur le parcours qui est à une hauteur à peu près maximum 1m20 aux Jeux Olympiques et sur des grosses compétitions. Et sinon, c'est 1m15, 1m10.
Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait passer le pas en fait du pentathlon? Tu disais qu'on est venu te chercher, mais pourquoi tu t'es dit bah pourquoi pas tiens je vais me lancer là-dedans sachant que t'avais quand même 20 ans, ce qui peut paraître tard pour commencer une discipline comme celle-ci.
J'avais vraiment envie de repartir de zéro. J'en avais marre de faire de la natation, que de la natation.
Ouais.
Je pense que j'étais jeune aussi et le fait de changer, de partir sur autre chose, quelque chose de nouveau. Puis l'INSEP, ça m'a fait quand même rêver à l'époque. J'étais jeune et je me suis dit, j'ai envie de découvrir l'INSEP, la vie parisienne, de changer de vie. Et tout ça, ça a fait que je suis venue à Paris pour voir un petit peu ce que c'était l'ambiance du pentathlon moderne, etc., avant de commencer.
Ouais.
Et tout de suite, j'ai adhéré au sport, aux gens qui étaient dans ce sport et même à l'entraîneur que j'allais avoir quand j'ai démarré, parce que j'ai eu un bon feeling avec lui et je me suis dit, c'est l'occasion de découvrir autre chose, en fait. Et je regrette pas du tout, parce que c'est vraiment ça a été une vraie école de la vie, finalement, parce que dans ce sport j'ai appris à me connaître, j'ai appris plein de choses, donc c'est en tout cas ça m'a fait grandir. Et ce changement de vie, même si ça a été dur au début de prendre mes marques, de changer de sport, d'avoir d'autres pairs, finalement c'est aussi grâce à ça que je pense que j'ai performé très vite en pentathlon moderne.
Mais effectivement, ça a été un bon choix puisqu'on connaît tes résultats par la suite. Donc finalement, changement de direction plutôt bien choisi. Si
oui,
je peux dire.
Bien choisi, exactement, bien choisi.
Et comment tu définirais, donc maintenant ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans finalement que tu es dans le pentathlon moderne?
C'est ça, ça va faire 10 ans. Ouais, ça fait plus de 10 ans. J'ai commencé mon premier pentathlon moderne en fin 2009. Où j'ai fait un pentathlon entier. Donc, ça fait faire plus de 10 ans. Ouais.
Et justement, qu'est-ce que ça représente de faire son premier pentathlon en entier? Ça a été quoi le chemin pour y arriver?
C'est mon premier pentathlon que j'ai fait en entier, parce qu'en fait, avant, c'était pas en entier. Je faisais juste la natation. Ensuite, j'ai fait la natation et la course. Ensuite, j'ai fait la natation, l'escrime et la course. Ensuite, j'ai fait la natation, l'escrime et le combiné, parce qu'on est passé au combiné tir-course. Et ensuite, j'ai fait mon premier pentathlon escrime, natation, équitation et combiné tir-course. Donc, le laser run, ce qu'on appelle maintenant. Et en fait, mon premier pentathlon, j'étais tellement stressée en équitation que j'ai sauté un obstacle à l'envers. En équitation, j'ai paniqué. Et j'étais sans faute, en fait, dans mon parcours d'équitation. Et j'ai oublié mon parcours. Enfin, il s'est passé des trucs. Et du coup, j'avais quand même fait... j'avais pas fait tomber d'obstacles et tout, ni rien. Mais je m'étais trompée de parcours, quoi. Donc, ça a été un moment que je retiendrai. Parce que c'est vrai que sur le moment, pour maîtriser les 5 disciplines, avant d'y arriver, c'est pas facile.
Et comment, là maintenant, avec le recul, comment si tu devais donner une définition, pas forcément en précisant chaque sport, mais une définition de ton sport ou une devise ou quelque chose vraiment qui correspond à ton sport, tu dirais quoi?
Un gladiateur. Ah ouais, j'adore ce film en plus. Je trouve qu'un pentathlète, c'est quelqu'un qui est prêt à tout, en fait. Voilà. C'est une journée en plus aux Jeux Olympiques et en une journée il y a tout qui peut se passer, c'est y croire jusqu'au bout, c'est un sport magnifique parce que on commence la journée, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est à nous de créer notre journée. Il faut être avec soi-même. C'est des remises en question. Il y a des doutes. Et finalement, le résultat, on l'a que seulement après avoir passé la ligne d'arrivée. Et c'est ça qui est beau aussi. Il y a beaucoup de suspense dans ce sport. Et c'est ça que j'adore, en fait.
Et par curiosité, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? T'as toujours eu envie d'être dans le sport ?
Quand la maîtresse, elle m'a demandé « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», je disais « je veux être championne olympique ». Ça, je le disais tout
le
temps.
C'est dingue.
Ouais, j'avais des parents sportifs de haut niveau, ils faisaient de l'athlétisme, donc ils m'amenaient souvent sur des meetings, j'étais en compétition des fois avec eux aussi en athlétisme, j'allais les encourager quand ils étaient en compétition. Donc c'est vrai que j'ai connu le milieu de la compétition très jeune. Et c'est vrai que la maîtresse, quand elle m'a demandé plusieurs fois, je lui disais je veux être championne olympique et aussi je voulais être comédienne.
Ok.
Enfin, je veux toujours être comédienne et actrice de cinéma parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais petite et j'en ai fait aussi, j'ai fait les cours Simon aussi à un moment donné et ça me passionne aussi. Mais après, c'est deux milieux différents
C'est le grand écart.
Et de concilier les deux, c'est impossible. Du moins, quand on est à très haut niveau et qu'on est en quête d'une médaille d'or olympique, c'est vrai que c'est de faire à la fois du théâtre ou du cinéma.
De concilier les deux, pour le moment, c'est pas envisageable.
C'est du haut niveau dans chaque domaine. Donc, je peux pas être une championne en sport et une comédienne ou une actrice. Donc, c'est vrai que ça, je le réserve pour après.
La reconversion.
Exactement.
Donc, finalement, tes rêves de petite fille, c'est peut-être deux choses que tu vas accomplir dans ta vie, en fait. C'est ça qui est dingue. Peut-être, je te le souhaite.
J'espère, en fait. C'est moi, vraiment, dans ma tête, c'est vraiment, aller au bout de mes rêves, c'est vraiment ma devise dans la vie. J'ai des rêves de petite fille et c'est ce qui me fait encore vibrer aujourd'hui. Et je pense que c'est important de réaliser ses passions, de donner le meilleur, en tout cas, pour y arriver. Et après, si ça marche, ça marche. Mais
de ne pas regretter, en tout cas.
Voilà, pas avoir de regrets. Et quand je suis très instinctive de base et quand je sens quelque chose que j'ai envie de faire, je fonce parce que c'est ma première pensée et c'est ce que j'ai envie de faire au fond, en fait. C'est vraiment ça depuis toujours. Donc ça m'anime, en fait, de penser aux Jeux Olympiques, c'est pas seulement de gagner une médaille d'or, je pense. C'est vraiment tout le parcours au quotidien que je mène depuis des années, c'est ça qui me tient en vie, en fait, qui me fait vibrer, quoi.
Et pour teaser notre interview avec toi, on a posté une photo sur notre compte Instagram, une photo de toi toute petite, avec déjà un dossard de compétition. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette photo ?
Alors, en fait, mes parents, ils étaient sur une compétition d'athlétisme et il y avait une compétition pour enfants avant leur compétition. Et moi, je voulais absolument faire la compète des enfants, quoi. À chaque fois, dès qu'il y avait une compétition, de toute façon, et que mes parents, ils me disaient « Tu veux faire la compétition ? On t'inscrit, le cross, le truc, la course ?» Je disais « Oui, oui, moi, j'étais à fond, je voulais trop faire de la compétition. » Et là, ce jour-là, je me souviens, j'avais fait... c'était un relais, en fait. C'était un relais avec les parents. Ça date, hein. Je sais pas quel âge j'ai sur la photo, mais ça date de... Enfin... de bientôt 25 ans, presque. 20 ans, ou 20... presque 25 ans. Donc, non, c'était un relais, je crois, avec les parents, justement. Et moi, j'avais fini le relais et j'avais gagné, quoi. En fait, j'avais passé la ligne en première et les bras s'étaient levés naturellement, en fait.
Déjà, le réflexe de championne, quoi. J'adore.
Non, mais... Et puis, cette photo, quand je l'ai vue, il y avait... Enfin, vraiment, quand j'étais petite et que je l'ai revue derrière... J'ai dit, mais c'est comme ça que je veux lever les bras un jour aux Jeux Olympiques. Parce que ça, quand tu passes la ligne d'arrivée aux Jeux Olympiques, t'as la banderole, je pense que tu réfléchis même pas, tu lèves les bras, tu vois. Et quand je suis arrivée deuxième aux Jeux Olympiques à Rio, j'étais KO, j'étais morte, j'avais tout donné, mais j'ai pas levé les bras, tu vois, parce que t'es deuxième et c'est pas venu, en fait. Sinon, je l'aurais fait, tu vois, même des fois sur des deuxièmes ou des troisièmes places, j'arrive et je lève le poing comme ça, tu vois, je suis contente. Mais là, j'ai pas pu lever les bras, alors que d'habitude, quand tu gagnes, Je pense que c'est un moment où ça se lève tout seul, en fait. Et là, c'était marrant parce que ça s'était levé tout seul et c'était trop mignon, quoi. Quand je vois la photo, je me dis, punaise, j'espère un jour relever les bras comme ça, quoi.
Tu disais tout à l'heure, effectivement, que tu viens d'une famille de grands sportifs.
Exactement.
Ton père et ta mère qui étaient sportifs pro aussi, dans le demi-fond et dans le fond.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? En quoi ils ont été constitutifs de la personne que t'es et de la sportive que t'es devenue par la suite?
Depuis toute petite, ils m'ont inculqué le milieu du sport, finalement. Ils m'ont inculqué aussi les valeurs que dégage le sport. Aujourd'hui, mon père, c'est mon entraîneur d'athlétisme, enfin dans le pentathlon.
D'accord.
Il travaille en collaboration avec Sébastien Delaigne, qui est le manager général des 5 disciplines. Mais c'est vraiment mon père qui me conseille en athlétisme sur la partie course, qui me donne les entraînements, qui fait les planifs pour les entraînements, pour que je sois au mieux. Finalement, c'est la personne qui me connaît le mieux en course à pied parce qu'il m'a vu grandir, il m'a vu évoluer. Et c'est vrai que jamais j'aurais pensé que mon père puisse me coacher, mais finalement, avec le temps, le travail que j'ai fait sur moi, etc., aujourd'hui, je me dis que c'est la meilleure personne que je puisse avoir à mes côtés pour me coacher en course. Il me comprend, il sait quand je suis fatiguée, il sait que... Et puis pareil, il y a une harmonie dans mon équipe qui fait qu'il y a tout qui roule. Donc ça, c'est génial.
C'est pas trop compliqué, justement, d'avoir son père en coach à côté. Ça, le mélange fille... sportive et pas trop compliqué?
Non, franchement, en plus, il est à distance parce qu'il est à Saint-Étienne. C'est le président de mon club aussi de Saint-Étienne parce que je suis au club de Saint-Étienne Pentathlon Moderne 42. Et du coup, c'est du travail à distance. Il vient sur des stages, mais en même temps, il est énormément en relation avec Sébastien Delaigne qui, lui, nous coach au quotidien. Donc, il n'est pas tout le temps avec moi, en fait. Mais on a trouvé le bon équilibre. Et ça, c'est super important dans une relation de coaching, d'entraînement. C'est basé sur de la confiance. Et aujourd'hui, c'est moi qui sais le mieux ce dont j'ai besoin pour performer, en fait. Et ça, c'est top parce que mes coachs, ils l'ont compris. Et ils sont hyper à l'écoute de ce que j'ai besoin, de... Voilà, ils sentent vraiment ce qui est le mieux pour moi. Et ça, c'est vraiment de la haute couture et du très haut niveau.
T'as réussi à trouver vraiment un équilibre qui te convient parfaitement.
Exactement. Et ça, c'est avec les années. Hein. Franchement, c'est au fur et à mesure des années, on évolue, on grandit. Et plus on approche, je dirais, du Graal et du sommet de son art, entre guillemets, parce que le sport de haut niveau, à un tel niveau, ça devient un art, ouais, pour moi, enfin, dans ma philosophie, dans ma conception du sport. Et là, je me dis, ma carrière est plus proche de la fin que du début. Donc, je sens que, voilà, je suis en train de peaufiner les petits détails qui me restent pour être encore plus forte.
T'as vraiment l'impression d'être arrivée là au summum de tes capacités physiques, de tes capacités mentales aussi, là, d'être vraiment au top du top
ou... Là, oui, pour le coup, c'est vrai que je suis vraiment... c'est vrai que là, comme les Jeux sont décalés d'un an, là, quand on a eu la nouvelle, moi, j'étais vraiment au top, en train de peaufiner les détails pour arriver vraiment à mon meilleur niveau lors des Jeux Olympiques de Tokyo.
Numéro 1 mondial aussi dans ta discipline?
Exactement. Je suis toujours là, ouais. Du coup, comme il n'y a pas eu de compète. Mais d'ailleurs, c'est la première fois, je pense, qu'il y a quelqu'un qui va rester aussi longtemps numéro 1 dans le sport. Mais en tout cas, c'est normal parce qu'en même temps, il n'y a pas de compétition. Donc, ouais. Et on fait un sport quand même où il y a quand même de fin, on n'a pas vu tout le temps une personne, par exemple, gagner toutes les compétitions dans l'année. Il y a le facteur équitation, il y a plein de facteurs en pentathlon qui font que ça peut changer et ça varie assez souvent. Mais en tout cas, je suis assez contente de rester numéro 1 comme ça, sans rien faire.
C'est clair. Pour continuer sur ta famille, c'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Finalement, on a souvent remarqué, nous, dans les interviews, que les femmes qu'on interviewait avaient un environnement familial relativement sportif. Pas forcément des parents sportifs professionnels, mais en tout cas qui aimaient le sport, qui regardaient le sport, et ils ont toujours été dans des environnements comme ça. T'as aussi une petite sœur de 13 ans, ta cadette. Quelle est ta relation avec ta sœur? Parce que je sais qu'elle fait du tennis, je crois. J'ai lu ça. C'est pas trop compliqué quand on a la petite sœur d'avoir deux parents qui ont été sportifs pro, une sœur qui est sportive pro. Comment tu gères, quelle est ta relation avec elle justement par rapport à ça?
Bah là, du coup, ma sœur est là en ce moment pour le week-end. Donc ça, c'est cool. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue, d'ailleurs, avec les entraînements, les compétitions, etc. C'est difficile de voir la famille. Et il y a ce petit côté-là qui fait que je dois faire des petits sacrifices sur la famille, sur voir les parents et aussi ma petite sœur. Donc même s'il y a FaceTime ou le téléphone, ça change pas. Enfin, c'est pas pareil que si c'est de les voir en vrai. Ouais. Mais c'est vrai que le manque de temps fait que c'est comme ça pour l'instant. Et après ma carrière, j'aurai tout le temps de profiter d'eux. Pour ma sœur, je pense que ça n'a pas été facile de se faire sa place au sein de ma famille, sachant que elle, pour l'instant, là, elle fait du tennis. Mais elle a quand même décidé, là, pour le coup, de prendre ça plus comme un loisir.
Ouais.
Donc, pour elle, c'est vrai qu'il faut se créer une place et ça n'a pas été... Enfin, c'est pas facile de se comparer à une sœur qui est championne dans le pentathlon et qui a aussi des parents sportifs, alors que peut-être, elle est pas forcément... la compétition, ça l'anime moins que moi, etc. Mais c'est pas grave, elle va se créer son chemin et c'est pas parce qu'on n'est pas sportif de haut niveau qu'on peut pas faire autre chose et être un champion dans un domaine ou un autre. Pour moi, enfin, le sport, c'est un domaine comme un autre. Ça peut être, si elle s'épanouit dans un métier qu'elle aime, ça sera génial, quoi. Je lui souhaite ça, en tout cas. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et je pense que ça va l'aider aussi à se construire en tant que personne, de se dire, c'est pas facile, mais je vais y arriver moi aussi.
Un beau message. C'est vrai. Pour revenir sur ta carrière, c'est vrai que clairement, on peut dire que tu t'es fait connaître du grand public, en tout cas en 2016, aux Jeux de Rio, où tu as fait une superbe deuxième place. Et c'est vrai que même moi, pour te donner la petite anecdote, ça a été très marquant parce qu'avant les Jeux de Rio, je suis avec mes parents aussi, pareil, depuis que je suis toute petite, les Jeux, c'est vraiment le moment incontournable. On reste vissé devant la télé pendant 2 semaines. Et en 2016, on regardait le pentathlon. Et on t'a vu à la télé juste après. Enfin, on a regardé le pentathlon et on t'a vu après ta médaille. On s'est dit waouh, elle est incroyable cette nana. Tu dégageais un truc de dingue. T'étais hyper solaire et tout. Et c'est vrai que même pour moi, tu vois, ça a été marquant. Et c'est vraiment là que je me suis dit ok, Élodie Clouvel, et que j'ai retenu ton prénom et ton nom. Qu'est-ce qui a changé en fait à partir de ce moment-là? Est-ce que t'as vraiment senti que tout changeait à partir des JO?
J'ai senti que cette médaille, elle avait changé beaucoup de choses parce qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont été intéressées par le pentathlon. Il y a eu des jeunes aussi qui ont pris leur licence en pentathlon. Ça a créé une émulation dans mon sport et ça, c'est super. J'étais hyper fière de cette médaille aussi qui amène vraiment de la reconnaissance envers le pentathlon moderne et mon sport. Et moi-même aussi, c'est vrai que ça a beaucoup changé parce que j'avais l'impression d'être devenue une sportive, en fait, une championne à part entière et pas seulement Élodie Clouvel qui fait du pentathlon moderne. Et ça, c'est sûr qu'avec les Jeux Olympiques, quand on a une médaille olympique, c'est différent qu'une médaille au championnat du monde ou en championnat d'Europe, par exemple. Et ça, je l'avais pas. Quand j'ai fait les Jeux Olympiques à Rio, je m'étais pas posé la question. Quand j'étais dans ma compète. Après, j'étais aux Jeux Olympiques. C'est différent. Il y a une pression différente. Il y a beaucoup de choses à gérer lors des Jeux Olympiques. Mais sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte quand j'ai passé la ligne d'arrivée. C'est après le podium où là, je me suis dit « Ah ouais, c'est un truc de fou. Ça avait pris un engouement pas possible. » Et puis, j'étais contente parce que j'avais que des bons retours de personnes, de messages... Qui m'ont énormément touchée, en fait. Que les gens me voient pratiquer mon sport, me voient tout donner ce jour-là, parce que vraiment, j'ai été au bout du bout du bout. C'était une grande fierté pour moi et pour aussi avoir représenté la France.
C'est marrant, je trouve que c'est hyper marquant ce que tu dis. Tu dis, j'avais pas l'impression, avant ce moment-là, d'être une vraie sportive. C'est quoi? C'est le fait d'avoir eu une médaille ou c'est le fait... que les gens t'identifient, qui t'a donné un peu un sentiment de légitimité?
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, comme c'est un petit sport, le pentathlon moderne, j'avais déjà fait les Jeux Olympiques à Londres. Et forcément, c'était mes premiers Jeux. Ça avait pas pris... Enfin, j'avais découvert les Jeux Olympiques et j'avais fait une 31e place aux Jeux Olympiques. Donc, je m'étais pas fait connaître à ce moment-là. Et après, pareil, les compétitions en pentathlon moderne, les championnats du monde. J'ai fait vice-championne du monde avant les Jeux Olympiques, mais pareil, ça a pris un petit peu d'ampleur parce qu'il y avait les Jeux Olympiques et que on m'avait inscrit un peu comme une favorite aux Jeux Olympiques. Mais c'était pas rien à voir avec. C'est vrai que quand il y a eu les Jeux, c'est à ce moment-là où vraiment. Et puis c'était la première médaille aussi en individuel de mon sport aux Jeux Olympiques. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça a pris une telle ampleur.
C'est vrai que j'ai pas précisé, mais effectivement, c'était la première fois dans l'histoire des Jeux qu'il y avait une médaille en individuel en pentathlon moderne. Hommes et femmes confondus.
Exactement, ouais, c'était la première. Et le fait que ce soit une femme en plus dans un sport assez masculin de base, parce que les femmes sont rentrées plus tard aux Jeux Olympiques dans le pentathlon moderne, j'étais aussi fière de ça, de montrer qu'une femme française pouvait remporter une médaille olympique. Que voilà, ça casse le truc. Il n'y en avait pas eu avant, mais là, c'est possible en fait. Ça ouvre la voie aux plus jeunes qui se disent maintenant dans mon sport... Ok, c'est possible d'avoir une médaille olympique. Moi aussi, je peux un jour faire du pentathlon moderne, y commencer et avoir une médaille olympique.
Tu disais tout à l'heure qu'un de tes rêves, quand tu étais petite, c'était de devenir championne olympique. Quand à Rio, tu es devenue vice-championne olympique et non championne olympique, quel sentiment s'est emparé de toi ? Quel a été, est-ce que tu étais contente ou est-ce que la mini Élodie Clouvel, elle était quand même déçue ?
Ouais, non, mais cette question, elle est vraiment intéressante parce que quand j'ai fait deuxième, sur le moment, j'étais KO. Enfin, je suis tombée, j'étais limite en train de faire un KO, justement. Et je suis tombée et je me suis dit, j'avais une petite déception de ne pas avoir gagné. Et dans ma tête, après, je me suis dit, mais quand même, vice-championne olympique, c'est bien. Et puis après, quand mon père, il est arrivé en courant pour me prendre dans ses bras, les premiers mots que je lui ai dit, mais instinctivement, je lui ai dit, j'ai pas gagné. Mais après, quand tout s'est accéléré, quand j'ai vu ce que ça représentait et que vice-championne olympique, c'était quand même énorme, c'est passé. Mais c'est vrai que quand ton rêve, c'est d'être championne olympique, forcément, vice-championne olympique, c'est bien. Mais tu te dis, j'ai pensé à Tokyo. En fait, le soir même, on m'a posé dans une interview la question. J'étais là, non mais c'est quand même une victoire d'être vice-championne olympique. Mais par contre, à Tokyo, je vais aller chercher la médaille d'or aux Jeux Olympiques. En tout cas, je vais donner le meilleur pour aller la chercher. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir meilleur ce jour-là. Et c'est vrai qu'à Rio, clairement, Chloé Esposito, elle a été super forte, notamment dans l'épreuve de tir où elle a fait juste une erreur. Et elle a été meilleure ce jour-là, voilà, tout simplement. Et voilà, donc
tu le gardes là comme un moteur supplémentaire dans un coin de ta tête depuis Rio, motivation en plus.
Au Maracana, au stade du Maracana avec Valentin, on était tous les deux. C'était à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Quand la flamme elle s'est éteinte, on s'est regardé comme ça, on a dit ok, on va aller la chercher cette médaille d'or. Et on s'est tapé dans la main et tout, on s'est embrassé. C'était là quoi, tu vois. La médaille d'argent, je l'avais pas oubliée parce qu'elle était là, mais en fait, je pense que voilà, peu importe, il y avait une petite déception parce que j'avais pas gagné, mais c'est vrai qu'après, finalement, avec le recul, je me dis aussi que si je donne le meilleur à Tokyo et que j'ai tout donné et qu'il y a meilleur que moi encore, tu l'acceptes. Forcément, t'es déçu. Mais dans le sport, c'est ça en fait, le sport aussi. Des fois, il peut y avoir meilleur que toi et on est 36 concurrentes en finale et il y a 3 médailles, quoi. Donc, c'est déjà énorme d'avoir une médaille d'argent. C'est ce que je me suis dit après, quoi. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à Tokyo, je donnerai le meilleur et je ferai en sorte d'aller chercher cette médaille d'or. Et si je ne l'ai pas, c'est qu'il y aura meilleur. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que je donnerai le maximum. Ce jour-là, parce qu'il y a 15 jours où on peut avoir une médaille, quoi. Ouais. C'est un one shot, quoi. Nous, hein, c'est. Tu te dis pas, demain peut-être que je peux recommencer. Non, c'est un jour one shot et on y va et 3 médailles pour 36 filles, quoi.
T'as senti aussi qu'il y avait une différence de traitement et de médiatisation de ton sport après ces JO-là et après ta médaille, que les gens et les médias, globalement, se sont plus intéressés à cette discipline qu'ils ne s'intéressaient avant.
Oui, j'ai senti vraiment la différence. Et aussi, mon sport, ma fédération a ressenti le fait qu'il y avait une médaille. Parce que plus de licenciés, plus de clubs, etc. Et plus d'engouement aussi. Donc, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien. Et pour moi-même aussi, finalement, après, on me connaissait de nom. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs gens qui me connaissaient, mais qui me disaient, tu fais quoi comme sport ? Ouais. Et après, je leur disais, ah oui, mais je t'ai vu en fait à la télé. T'as fait j'avais vu, il y avait du tir, de la course. Donc en fait, ils ont après quand j'explique, ils se remettent. Mais au début, ils avaient retenu vraiment le moment où j'avais fait vice-championne olympique. Et il faut juste que je rappelle le sport encore de temps en temps. Mais je le répète au fur et à mesure. Et à chaque fois, il y a des gens qui me demandent, ils me disent mais je vous ai vu. Et oui, donc je répète le pentathlon moderne, 5 disciplines.
Ouais. Je comprends pas, je vous ai vu en escrime, mais je vous ai aussi vu en équitation.
Voilà, c'est ça.
Ouais, forcément, ça peut prêter un peu à confusion.
Voilà. Donc du coup, je réexplique et à chaque fois, j'essaie de ramener des supporters pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo en 2021 et aussi à Paris en 2024, parce que Paris 2024, c'est demain aussi, quoi.
Tu te projettes, c'était une question que j'avais après, mais bon, on va la poser maintenant, mais tu te projettes jusqu'en 2024, toi ?
Oui, enfin, je me projette là pour l'instant. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, la projection, je me projette déjà jusqu'à Tokyo 2021.
Forcément, ouais.
Mais c'est sûr que j'avais vraiment à cœur de mettre un terme à ma carrière à Paris en 2024. Et c'est vrai que prolonger de 3 ans après Tokyo, pour moi, enfin, je suis en bonne santé, mon corps va bien. Je me sens bien et j'évolue à chaque fois psychologiquement parce que j'ai la chance d'être accompagnée aussi sur ce plan-là. Et c'est vrai que je me sens continuer encore jusqu'à Paris en 2024. Après, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer à Tokyo en 2021. Et voilà, je veux dire, on peut changer aussi s'il faut. Après, je pourrais dire, bah non, finalement... je préfère arrêter sur ça ou...
Ouais, tu sais, bon, après, tu sais pas les pépins physiques, tout ce qui peut arriver.
Ouais, voilà,
ce genre
on
de
sait
choses,
pas. Cas, c'est vrai qu'on sait pas ce qui peut arriver dans la vie. C'est vrai que là, pour le coup, je préfère me dire Tokyo 2021 et ensuite on voit. Mais c'est vrai que oui, Paris 2024, c'est dans ma tête, forcément.
Une bonne nouvelle pour tes supporters et tes fans.
Oui.
Je vais revenir aussi sur le mot de gladiateur que tu disais tout à l'heure. J'ai vu que tu l'avais utilisé pas mal et que c'est vraiment un mot qui te tient à cœur. C'est hyper puissant quand même comme mot, je trouve. Enfin, vraiment, le côté gladiateur. Et qui plus est, c'est dans une discipline où il y a 5 disciplines. C'est un sport très particulier où tu as une implication physique voilà, qui est très importante. Justement, toi, quel est ton lien au corps, à cet outil de travail en fait finalement qui te sert tous les jours?
Alors mon lien avec mon corps, il est c'est ce qu'il y a de plus important. Mon corps, c'est ce qui me permet de faire du sport aujourd'hui. C'est mon corps, c'est mon métier aussi aujourd'hui.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Et j'en prends soin, en fait. J'en prends soin et j'essaie d'être bienveillant avec mon corps au quotidien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me le rend bien et je ne suis jamais blessée, à part là où j'ai fait une chute à vélo. Et voilà, je dirais que ce n'est pas de chance ou peut-être c'est parce que j'étais un peu fatiguée, un manque d'attention, etc. Mais je pense que c'est important de bien se connaître déjà. Et je pense qu'aussi, le corps est intimement lié avec tout ce qu'on ressent psychologiquement. C'est vrai que quand je ne suis pas bien dans ma tête, je ne me sens pas bien dans mon corps, je me sens moins forte. Et dès l'instant où, par contre, je me sens forte, bien dans ma tête, avec de l'envie, mon corps, il suit derrière, en fait. C'est vraiment aussi la tête qui fait que notre corps, il fonctionne bien. Enfin, pour ma part, en tout cas. Mm-hmm. Et j'essaie de vraiment prendre soin de mon corps, à l'entraînement, d'être à l'écoute. Quand on dit oui, quand tu es athlète de haut niveau, il ne faut pas trop s'écouter, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que Justement, il y a des moments où il faut s'écouter quand on sent qu'on va trop loin dans la douleur ou à l'entraînement, quand on se sent bien et qu'on dépasse cette limite-là d'aller trop loin dans l'entraînement, on peut se blesser, on peut pareil, griller ses cartouches avant une compétition. Et c'est ça aussi, le très haut niveau et être athlète de très haut niveau, c'est savoir dire stop, savoir dire non, bah là, je vais pas faire cet entraînement parce que je suis fatiguée, parce que je le sens pas et il vaut mieux que je me repose. Des fois, c'est plus dur pour un athlète de haut niveau de dire ok, bah, je vais me reposer et je reviendrai en meilleure forme pour pouvoir mettre un peu mon corps au repos, qu'on se régénère au mieux et que je reparte sur le bon pied, quoi. Plutôt que de tirer la corde jusqu'à ce que ça casse, en fait. Et c'est un juste équilibre, en fait. C'est pas ne rien faire et dire à chaque fois c'est trop dur, j'ai mal, j'arrête. C'est vraiment trouver cette justesse. Comme quelqu'un qui fait du piano ou de la musique ou je sais pas, dans n'importe quel métier, c'est avoir cette justesse-là pour se dire ben, là, je suis dans le vrai, là, je travaille bien, c'est bien ce que je fais, j'en fais pas trop. Enfin, voilà, il faut être juste, en fait. C'est pas en faire trop, c'est pas en faire pas assez non plus, parce que là, on est en sous-entraînement et c'est pas être en sur-entraînement non plus. Et là, notre corps, enfin, moi, je sais que mon corps, quand je suis comme ça et que j'arrive à avoir cette justesse-là qui est pas facile du tout, et ben mon corps me le rend.
Oui, le juste équilibre.
C'est ça, bah dans tout en fait. Mais en sport, c'est dur hein, parce que des fois j'ai envie d'aller à fond à l'entraînement et je suis obligée de me dire non, hello, c'est bon là, on va calmer le jeu, on va y aller mollo, garde tes cartouches, tranquille. Je suis obligée plus de me dire tranquille à moi.
Là, du coup, c'est vrai que tu parles plutôt de l'aspect corps sportif, forcément, parce que c'est aussi ton métier, donc c'est une grosse partie de ton temps. On avait eu une discussion avec Gabriela Papadakis qui nous expliquait qu'elle avait l'impression d'avoir plusieurs corps. Le corps de la sportive, qui est un outil de travail, en fait. Hein.
Exactement.
Le corps aussi le corps marketing, c'est-à-dire celui qui te sert d'image, à communiquer ton propre produit, si je puis dire, et aussi le corps privé. Bah, celui personnel, de ta vie intime, de ta vie personnelle, privée. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi ?
J'ai ce sentiment-là aussi, carrément. C'est bien imagé, franchement. J'avais pas pensé à ces images-là, mais c'est exactement ça. Il y a vraiment le corps de la sportive de haut niveau au quotidien qui me sert pour mon métier. Et j'en ai besoin, par exemple, même pendant le confinement, d'être sportive au quotidien, c'était mon métier et je sentais que j'avais besoin de créer, d'être dans l'action en fait. Parce que c'est quand c'est ton métier et que tu fais ça avec passion, on t'enlève ça d'un coup du jour au lendemain, c'est très dur. Donc continuer à être dans l'action avec mon corps, ça c'est vraiment super important. Et après j'ai mon corps aussi, photo. J'aime beaucoup faire du cinéma, être actrice, c'est un autre volet et j'adore utiliser ça, mon image. Quand on fait de la représentation, c'est différent. Voilà, je suis dans un autre mode. Et pareil, quand je suis dans le privé avec Valentin ou des amis, c'est une autre élo. Quand je suis en week-end, tranquille, j'aime bien prendre soin de mon corps, mais différent, pour être une vraie femme, pas tout le temps en tenue sportive, me maquiller, etc. Faire des choses...
Et t'arrives à jongler avec ça, c'est pas trop une schizophrénie permanente de devoir gérer tout ça en même temps et puis garder de la place pour chacune des élos
c'est ça,
dans la vie de tous les jours.
Non, franchement, ça va. Au fur et à mesure des années, j'ai réussi à prendre du temps pour chacune des élos, entre guillemets, et avoir justement ce juste équilibre pour être bien dans ma vie, bien dans mon sport, et bien tout court, en fait, me sentir bien. Et je pense que c'est le plus important, en fait, dans la vie, d'être bien, quoi. Il n'y a pas que élo, la sportive, c'est vraiment être au quotidien, être épanoui dans ce que je fais, quoi. Et d'être heureuse, tout simplement, quoi.
Très bien. C'est vrai qu'on parlait de l'aspect aussi image. C'est vrai que si on regarde un peu, si on suit tes réseaux sociaux et tout, on voit que tu fais du mannequinat, tu fais des shootings. C'est quelque chose que tu aimes bien.
Oui.
Est-ce que tu as une volonté aussi, je dis ça parce que c'est notre dernier épisode sur le côté communication de la sportive, est-ce que tu as le sentiment que c'est important aussi de jouer avec ton image par rapport à ça? Est-ce que c'est les shootings, le mannequinat, tout ça, c'est vraiment dans une visée de te créer une propre image et un moyen de communication?
Carrément, j'adore jouer avec la photo, j'adore jouer avec la caméra aussi. C'est des moments où voilà, je peux m'éclater, je me sens belle, je me sens bien, je me sens dans un autre contexte que le sport. Et j'adore ça, en fait. C'est comme les réseaux sociaux, ça ne me dérange pas. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien, ça m'éclate. J'aime bien partager aussi mon univers du quotidien avec les gens qui me suivent. Je trouve ça hyper cool qu'ils puissent voir un peu l'envers du décor, me voir quand je m'entraîne, ce que je fais, ce que je mange au petit-déj, dans la journée, etc. Les autres activités que je peux faire aussi. Et après, sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on montre ce qu'on veut montrer, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, en tout cas. J'aime bien Instagram et voilà, je montre ce que j'ai envie de montrer. D'Hello la sportive, parce que c'est vrai que sur Insta, c'est plus Hello la sportive. De temps en temps, quand je fais des shootings ou des choses comme ça, je le mets aussi. Mais c'est vrai qu'il y a ce volet perso... Forcément, il y a que mes amis ou les gens très proches qui me connaissent Hello dans la vraie vie ou vraiment la Hello un peu différente de la sportive et des réseaux sociaux. C'est normal. Enfin, il y a ce petit jardin secret que je peux pas partager avec tout le monde. C'est normal, ouais. De garder un petit peu.
C'est ta petite part qui n'appartient qu'à toi.
Voilà, j'aime bien garder cette petite part-là pour moi et c'est vrai que je prends aussi du temps pour moi toute seule, pour me retrouver, pour me recentrer et je trouve que c'est super important pour être bien aussi avec les autres.
Ouais. Et c'est vrai que pour rebondir aussi sur cet aspect dont je parlais, shooting, image, en lisant des interviews à ton sujet, j'ai remarqué, ça m'a relativement marqué, souvent on trouvait avant ton prénom et ton nom, les adjectifs qualificatifs « jolie », sexy, tu vois, toujours des mots connotés sur la beauté ou sur c'est quoi ton comment tu réagis en fait toi face à ça?
Je me dis c'est l'image qu'ils veulent me donner, quoi, tout simplement. Après quand j'avais vu les trucs des filles les plus sexy des Jeux Olympiques, etc., les plus jolies. C'est vrai que je préférais qu'on dise Élodie Clouvel, la championne, quoi, la guerrière, et qu'on mette ensuite jolie ou sexy, parce que voilà, on n'est pas juste un produit. Et chez les garçons, ça se voit moins. On va pas mettre le sexy Valentin Belot, champion du monde.
C'est vrai.
Voilà, c'est ouais. Vrai. Et du coup, j'y faisais pas trop attention parce que voilà, je me disais c'est comme ça. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense que il est temps de changer ça et de reconnaître que les femmes ont vraiment les mêmes capacités que les hommes, même si physiquement on est moins forte. Il y a cette égalité là qui est en train de venir et même dans mon sport, je suis contente parce que en pentathlon moderne, maintenant, le niveau masculin et féminin, il y a autant de filles que de garçons sur les compétitions. Et c'est en train vraiment de se mixer. Il y a des relais mixtes, des compétitions juste avec des relais mixtes. Donc, ça évolue. Et ça, c'est de voir évoluer ça fait plaisir.
Carrément.
Dans tous les domaines, carrément, ça fait plaisir.
Complètement. Et c'est vrai que sur ce volet féministe aussi, tu vois, il y a un truc souvent, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est contradictoire. Par exemple, de poser en maillot de bain et de se dire féministe, par exemple. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est vrai ou pas?
Moi, féministe, après, ce mot-là, il n'est pas facile parce que, pour ma part, en fait, je me considère pas comme féministe dans le sens où, pour moi, c'est l'homme et la femme ont sa place dans la vie et on est tous égaux. Donc, c'est ça que je veux justement faire passer comme message. On est tous égaux. Féministe, il y a des hommes très bien. C'est comme si on faisait un clan macho, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas ça chez les hommes. Donc, je me considère pas féministe dans le sens où j'ai pas envie d'écraser les hommes, j'ai envie juste qu'on soit tous égaux dans tous les domaines. Et c'est comme pour le racisme, là en ce moment on en parle, mais c'est la même chose. On est tous égaux, on est des humains, et voilà, c'est pour moi c'est ça, quoi. Et ceux qui sont pas comme ça, c'est pas des humains.
C'est un message fort que tu
non, mais, non, mais c'est vrai. Ceux qui sont dans l'extrême, les extrémistes, il y en a qui ne sont pas humains quoi, dans ce qu'ils font. Je parle sur tout ce qu'il y a eu dernièrement. C'est vrai qu'il ne faut pas être humain pour avoir des comportements comme ça. Et pareil, j'encourage les gens qui vont manifester, les femmes qui manifestent, etc. Tout ça, je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est vrai que voilà, il faut avoir la justesse dans ce qu'on fait. Et j'aime, enfin voilà, quand on fait quelque chose et qu'on dit quelque chose, faut être juste parce que quand on parle de féministe ou de raciste, par exemple, c'est un sujet où il faut être juste quand on en parle, quoi.
Complètement.
Voilà.
Très bien. Tu es plutôt sur une visée humaniste, finalement.
Ouais,
fait.
Non, mais c'est clair. Bah, j'ai ce côté humain. Bah, je suis comme ça de base. Voilà, j'aime les gens. J'aime et c'est mon côté aussi qui fait que j'aime bien aller vers les gens, discuter. J'aime bien transmettre aussi aux jeunes des messages. Et je suis pas dans... Voilà, j'aime bien que tout le monde soit égaux, peu importe notre niveau, même en sport. C'est pas parce que la personne, elle a fait dernière en compétition qu'on doit la traiter de nulle. Enfin, voilà, c'est tout des trucs comme ça. Pour moi, c'est tout le monde a donné le meilleur, en fait. Tout le monde donne son meilleur et chacun est différent et voilà, on se regarde soi-même et on arrête de comparer aux autres, de regarder ce que font les autres, etc. Tout ça, c'est...
Être dans la pensée positive et dans le positivisme plus que dans le...
Ouais, dans le positivisme, exactement. Et dans le sport, voilà, c'est clair que chacun a son niveau et chacun donne le meilleur. Peu importe, il y en a peut-être qui ne deviendront pas champions. Mais le but dans la vie, c'est de devenir la meilleure version de soi-même et dans tout ce qu'on fait. Donc, j'encourage tout le monde à donner le meilleur. Et le résultat, après, c'est qu'un résultat, finalement.
Tu disais que ce qui était important pour toi, c'était effectivement que les hommes et les femmes soient traités de façon identique. Dans le sport féminin, il y a encore un petit peu de retard, on va dire, quand même, dans le traitement. Quel est ton point de vue, justement, sur le sport féminin à l'heure actuelle ?
À l'heure actuelle, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolutions. Mais c'est vrai qu'il y a encore, des petites choses où c'est vrai que tout ce qui est partenariat, etc., il y a plus d'hommes que de femmes. Forcément, on le voit un petit peu dans le sponsoring aussi. Il y a plus, c'est en train de venir vraiment, ça évolue de ce côté-là, mais c'est comme dans les journaux sportifs. Voilà.
Quand tu disais le sponsoring, c'est plus facile de se faire sponsoriser quand on a un homme athlète maintenant qu'une femme.
C'est ce que j'ai vu en tout cas ces dernières années, quoi. Il y avait plus d'hommes que de femmes qui avaient des sponsors. Maintenant, ça évolue parce que il y a des femmes qui jouent aussi sur le côté beauté. Féminin, etc. Donc ça marche bien aussi dans le sport parce que plus on est féminine, jolie, etc., on va avoir des sponsors. Mais je pense aussi aux femmes qui font des sports un peu plus masculins, etc. Et c'est pas facile dans ces sports-là, quoi. Mais c'est en train d'évoluer. Et en tout cas, moi, dans mon sport, je trouve que j'ai pas eu ce problème-là à me dire il y a plus... On valorise plus les hommes que les femmes. Non, franchement, depuis que j'en fais, il n'y a pas eu ça dans mon sport. Donc, c'est en train de vraiment évoluer positivement. Donc, c'est très positif.
Et est-ce que tu as envie de te servir aussi est-ce que c'est important pour toi de te servir de ta notoriété ou en tout cas de ton statut de sportif professionnel pour justement essayer de mettre en avant le sport féminin? J'ai vu pendant le confinement, par exemple, que tu faisais des lives. C'était des sujets auxquels tu t'en parlais. Tu avais fait un live avec Isaura,
exactement.
À ce sujet-là. Est-ce que tu te sens un peu investi d'une sorte de mission, si je puis dire?
Oui, carrément. Avec, on est tout un groupe de filles, en fait, à vouloir un petit peu porter le sport féminin. Et je pense que c'est important d'avoir des têtes d'affiche dans chacun des sports pour élever tout simplement ce niveau-là en tant que sportive et de tirer toutes les jeunes sportives qui vont se mettre au sport à évoluer dans ce sens-là et à faire qu'un jour, le sport féminin, il y aura beaucoup plus de monde, sera autant regardé à la télé que le sport masculin et autant valorisé.
Je l'espère.
Ouais, j'espère aussi.
C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, pour le mettre en avant un maximum.
Non, mais vraiment, en compétition maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de mixité, il y a ouais. des relais mixtes qui se mettent en place. Dans certains sports, honnêtement, maintenant, on ne voit plus la différence. Après, dans d'autres sports, c'est sûr que...
C'est toujours un peu plus compliqué.
Voilà, c'est un peu un ancrage qu'il faut désancrer et ça va venir, quoi, tout simplement. Mmh. Quand on voit le foot féminin, c'est en train d'évoluer aussi.
En espérant que potentiellement, là je reviens sur l'actualité, mais le confinement n'est pas non plus arrêté cette belle dynamique. Parce que
j'espère vraiment.
Malheureusement, des choses qui ont l'air de montrer que ça pourrait un peu freiner le développement aussi du sport féminin, malheureusement, ce confinement-là. Mais, et pour parler du confinement, parce que c'est forcément un sujet d'actualité, étant donné qu'on en sort depuis quelques semaines, tu as été très active sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Tu as fait pas mal de contenu, on sent que tu as été assez présente, même dans des émissions, les émissions de remise en forme à la télé où on t'a vu, tu as fait des apparitions, ce genre de choses. Comment tu l'as vécu ce confinement-là et est-ce que tu as essayé de le saisir ? On a l'impression que tu as essayé de le saisir comme une opportunité, est-ce que j'ai raison ?
Ah, complètement. C'était vraiment, je me suis dit, ce confinement, il faut que ça soit une opportunité, il faut que je sorte grandi de ce confinement en tant que personne, en tant qu'être humain, tout simplement. J'ai travaillé différemment, mais j'ai quand même travaillé parce que c'est mon métier aujourd'hui d'être sportif de niveau. Donc, j'allais pas m'arrêter et attendre que ça se fasse, que ça se passe, en fait. C'est comme différents métiers qui n'ont pas arrêté, faire du télétravail, etc. Nous, sportifs de niveau, on est obligés d'entretenir notre corps, de faire autre chose, de développer des compétences qui vont nous servir dans notre sport, dans notre performance. Donc, j'ai continué à travailler. J'avais aussi à cœur de partager ce que je faisais sur les réseaux sociaux pour donner de l'énergie et avoir que tout le monde ait une bonne énergie, en fait. Et j'ai ressenti ça pendant le confinement. C'est vrai que moi aussi, j'étais bien connectée à ce moment-là et puis, il y avait des bonnes énergies et des ondes positives dans les réseaux sociaux. Bah, je trouvais que ça faisait du bien. Donc, tous les gens qui faisaient du bien sur les réseaux sociaux, je trouvais ça génial. Et c'est ce que j'avais envie de faire aussi pendant ce confinement pour aider ceux qui n'avaient pas d'idée pour faire du sport. Ou j'ai fait des petits lives. Enfin, en plus, j'adore ça, en fait. C'est vraiment pas... moi, c'était vraiment parce que je kiffe faire ça. Et ça m'a redonné de l'énergie de le faire, en fait. Je fais pas ça parce qu'il faut le faire, c'est vraiment parce que je kiffe le faire.
J'ai essayé de faire des petits défis et tout aussi.
Voilà, ouais, c'était les petits défis, c'était fun, j'ai bien aimé. Il y avait, enfin voilà, et puis le confinement, non, c'est vraiment, ça m'a fait prendre du recul sur plein de choses, ça m'a fait grandir sur plein de choses aussi, et je suis contente de l'avoir vécu de cette manière parce que tout le monde n'a pas eu cette chance de vivre le confinement de cette manière-là. Parce que nous, en même temps, on était dans un endroit qui était vraiment cool. Et j'avais quand même des pensées pour ceux qui étaient confinés dans des endroits qui n'étaient pas au top, quoi, tout simplement. Et j'ai eu de la chance quand même, je tiens à le dire.
C'est important de le préciser.
Voilà.
C'est important de le préciser. Tout le monde ne le fait pas. Question aussi un peu plus globale, c'est vrai qu'on parle depuis le début forcément du sport, parce que c'est ton métier, parce que depuis que t'es toute petite, t'es dedans, de par tes parents. Qui plus est, t'es en couple aussi avec un pentathlète,
c'est ça.
Valentin, qui est double champion du monde au passage aussi, hein, donc couple de champions quand même, je tiens à le préciser. Comment tu trouves ton équilibre dans une vie où tout tourne autour du sport, c'est-à-dire que même finalement ton couple, ton boulot, ta famille, comment tu trouves ton équilibre ? Est-ce que tu as des échappatoires, si je puis dire, au sport ?
Oui, complètement. Déjà, avec Valentin, c'est vrai qu'on fait du sport ensemble, on est tout le temps ensemble, mais c'est vrai que quand on fait notre sport et, entre guillemets, notre job ensemble, vu que c'est mon partenaire d'entraînement, justement quand on est à l'entraînement on est pro et on est dans notre truc, quoi. Enfin, moi je suis concentrée avec moi et voilà, c'est différent quand on rentre à la maison. On arrive à faire la part des choses entre le côté professionnel où on est à l'entraînement et c'est pro, on est dans notre truc, on rigole, etc. Mais c'est pas comme à la maison où on va totalement débrancher, arrêter de parler de sport, faire autre chose, parce qu'on aime autre chose avec Val. C'est vrai qu'on a d'autres hobbies à côté. On a des amis qui ne sont pas forcément dans le sport aussi. Donc, ça fait du bien aussi de changer d'univers, d'avoir, de discuter vraiment d'autres choses que le sport. Après, on est passionné de sport. Donc, forcément, on va regarder le sport à la télé. On va encourager les copains quand ils sont en compétition. Mais c'est important de faire la part des choses et de trouver d'autres passions à côté et ce qui nous anime, tout simplement.
Et tiens, avant qu'on parle de tes autres passions, une question qui me vient en tête. Pourquoi le sport, c'est passionnant ?
Bah, la compétition. Je suis une compétitrice et c'est vraiment... j'adore la compétition. J'adore me surpasser, j'adore arriver en compète, me transformer, parce que moi, quand j'arrive en compète, j'ai l'impression que genre, je me transforme, quoi. Tu sais, genre, mon corps et tout, il s'affûte. Je sais pas, c'est fou, les pouvoirs du corps humain, quoi. Il sait que quand il y a la compète le lendemain, mon corps sait qu'il y a la compète le lendemain et je suis sur une autre planète, en fait. Non, mais c'est ça. Et c'est ça que j'aime, c'est pouvoir lâcher prise en compétition parce que bah, j'ai bien travaillé et du coup, tu lâches complètement prise et tu te surprends, tu fais des trucs que tu te dis, mais ah ouais, j'ai pu faire ça, tu vois. Enfin, c'est ça qui est génial, en fait. C'est surtout la compétition, moi, qui m'anime et le sport, c'est pour moi, c'est ma passion aussi parce que ça a été une vraie école de la vie pour moi, en fait.
C'est quoi tes passions, du coup, à côté ? Qu'est-ce que tu kiffes par-dessus tout faire quand t'es pas à l'entraînement ou quand t'es chez toi ?
J'aime l'art en général, en fait. Donc, quand je fais pas de sport, je suis un peu dans mon monde, dans le sens où je suis un peu artiste dans la vie et je suis obligée de mettre mon côté artiste un peu de côté quand je suis en performance, quand je suis dans le sport, parce que les émotions et tout ça, ça a pas de place dans le sport. Pour être un champion ou gagner une grande compétition, si on est dans l'émotion... on se fait bouffer, on est foutu, quoi.
Ce serait quoi tes petites recos à nos auditeurs culturels ? Là, des choses que t'as vues dernièrement et que t'aimerais recommander sur un truc que t'as vu à la télé, une série, un livre
Là, pendant le confinement, j'ai regardé quoi comme série ? J'avais bien aimé Une Orthodoxe, la mini-série sur Netflix. J'ai regardé Les Femmes du Téléphone sur Netflix. J'ai beaucoup aimé aussi.
C'est sur des séries quand même avec des femmes fortes hein, à chaque
ouais,
fois.
Ouais, hein. C'est ça que
c'est
j'aime.
Vraiment, ouais, c'est vraiment ouais. des personnages féminins.
Oui, c'est vrai. C'est inspirant en fait. Moi, ça m'inspire de voir des femmes fortes dans n'importe quel domaine, tu vois, dans leur métier et tout. Tu peux devenir championne olympique dans plein de domaines et c'est pas seulement que dans le sport, puisque voilà, une femme qui a envie d'être une championne dans tel ou tel domaine, c'est avant tout se donner à fond et voilà, aller au bout de ses rêves, aller au bout de soi-même et donner le meilleur en permanence, en fait. C'est vrai que même de regarder ces séries-là, j'arrive toujours à m'inspirer.
À trouver une motivation
exactement.
Dans la culture, en fait, au final. Là, si je devais te demander comme ça, je sais que c'est pas évident, mais comment tu te vois là dans 10 ans ? Idéalement, dans le meilleur des mondes, ce serait quoi ? Comment elle serait, Elodie Clouel, dans 10 ans ?
J'aurais des enfants, parce que j'ai trop envie d'avoir des enfants. Je me vois... j'aimerais m'éclater à faire du cinéma, à jouer un drame psychologique, parce que j'adore.
C'est bien, tu passes des annonces comme
non,
ça,
mais,
si jamais...
non, mais en fait, tout le monde me dit « Ouais, si tu fais du cinéma et tout, t'aimerais faire quoi ? T'aimerais faire des films d'action et tout, en mode sport et tout ?» Et en fait, je dis « Non, mais moi, je préférerais faire des drames psychologiques. Ah bon ?» Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des rôles où... je pense que je pourrais, avec le travail et tout, on peut arriver à faire plusieurs choses. Mais c'est vrai que je me vois aussi transmettre des choses à des plus jeunes qui veulent faire du sport. J'ai envie de partager aussi mon expérience. Enfin, je pense que c'est important de partager et de tirer les jeunes vers le haut dans n'importe quel domaine qu'ils veulent faire, en fait.
Et justement, tu me fais une transition parfaite, mais quel serait le conseil que tu donnerais à, imaginons, une jeune fille qui écoute l'épisode et qui dit « Ouais, putain, elle est hyper inspirante, Elodie, j'ai vraiment trop envie de faire comme elle, j'ai trop envie de me mettre au pentathlon. » Quel conseil tu lui donnerais ?
Je dirais « Mais vas-y, fonce si tu sens au fond de toi que t'as envie d'être une vraie championne, que t'as envie de, tout simplement... apprendre sur toi-même, sortir grandi et être la meilleure version de toi-même quand tu fais ça, c'est bingo en fait. Et puis voilà, il faut oser dans la vie, il faut travailler très dur forcément pour y arriver. Ça c'est clair, il faut travailler, mais voilà, toujours avec passion et aller aussi de l'avant, savoir écouter son instinct aussi souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire quand on est petit, oui, mais tu n'y arriveras jamais, c'est impossible, tu ne peux pas faire ça. Non, mais attends, mais ah non, mais je te vois pas du tout là-dedans, hein, carrément pas, quoi. Bah non, mais si ton instinct à l'intérieur il te dit mais non, c'est ça que je veux faire, bah il faut y aller, quoi. Vas-y, fonce. Et ces petites voix ou les gens qui vont dire que bah ils se trompent forcément, parce que si toi tu as senti différemment, c'est que c'est ce que tu as au fond de toi, et on est tous différents, on a tous nos traits à nous, et il faut s'écouter intérieurement, je pense, pour pouvoir faire ce qu'on aime, quoi, tout simplement.
Ah bon, ça y est, vous avez entendu. Lancez-vous.
Ouais,
n'hésitez
carrément.
Pas. Foncez. On va arriver un peu à la fin de l'interview. J'aimerais bien faire un petit jeu.
Allez.
C'est rapide. En gros, c'est je vais te demander dans lequel des disciplines, des cinq, tu es blablabla. Et à toi de répondre.
Ok.
Dans laquelle tu es la meilleure des cinq disciplines.
L'escrime.
Celle où tu es la moins bonne.
Le tir.
Celle où tu prends le plus de plaisir.
L'escrime.
C'est marrant, je coupe le jeu, mais la natation qui est ton sport de base, du coup, finalement, c'est, ça a été...
Non, mais en fait, j'adore l'escrime, quoi. C'est... comme je dois dire qu'un seul sport, je dis vraiment celui que je préfère.
Du coup, ma question d'après, c'est lequel a été une révélation ?
L'escrime.
Marrant. Celle où t'as le plus progressé ?
La course à pied.
Et la discipline que t'aurais rajoutée au pentathlon moderne si tu pouvais ? N'importe laquelle.
Le vélo, mais...
Dit-elle alors que tu viens d'avoir un accident de vélo.
Mais... C'est ça, non, mais j'ai dit ça, non, parce que j'adore le VTT, en fait, mais... Bah écoute, j'irai le VTT, mais déjà 5, c'est beaucoup, hein.
Ouais, non, c'est clair.
Franchement... mais j'aime beaucoup l'équitation, en fait. Tous les sports, je les aime tous, les sports, en fait. C'est difficile de répondre. Et... je les aime tous, et après, j'ai pas non plus de points faibles dans certains sports, mais c'est vrai qu'il y a des sports où on prend, enfin voilà, celui où je kiffe le plus, c'est vraiment l'escrime, avec cette notion de combat et d'adversaire, tu vois, tu dois faire face aussi à tes petits démons intérieurs qui font que, tu vois, il faut aller vers son jeu à soi, et par exemple, si ton adversaire en face te propose son jeu à lui, il faut pas tomber dans le piège d'aller dans son jeu, tu vois. Donc faut garder toujours sa conviction à soi, en fait. Faut vraiment être fort dans la tête pour se dire bon, ok, non, c'est ma conviction, je veux faire ça, je reste là-dessus. Enfin voilà, c'est ça que j'aime en fait en escrime, c'est hyper intéressant comme sport.
Oui. Et enfin, donc les deux dernières questions qui clôturent toujours nos interviews et qu'on pose à tous nos championnes. La première que je vais te poser, c'est quel moment de sport a été marquant pour toi ? Donc ça peut être un moment personnel ou un moment de sport que tu as vu à la télé ou quelque chose que tu as vécu. Si tu devais en choisir un, ce serait lequel ?
Alors, c'est Laure Manoudou en 2004, quand elle fait championne olympique du 400 mètres, en 4-5-34 exactement. Ça m'a marqué, quoi.
Ouais. Tu te souviens même du coup exactement du...
Je me souviens du temps, je me souviens de tout. J'étais devant ma télé, je me souviens de la place où j'étais assise sur mon canapé. Je me souviens de quand elle a levé les bras. Je me souviens, ce 400 mètres de Laure Manoudou, en fait, j'avais déjà envie d'être championne olympique, et c'était depuis toute petite. Mais là, en fait, ça m'a confortée dans l'idée où, je sais pas, c'est à ce moment-là, en plus, où je suis partie de chez moi, où je suis partie en sport-études. Et ça a été un élément déclencheur qui a vraiment marqué ma vie, quoi.
Une grosse inspiration.
Une grosse inspiration, exactement.
Trop bien. Notre dernière question, du coup, si tu devais donner la définition d'une championne, quelle serait-elle ?
Une championne, pour moi, c'est une femme qui assume ses choix, qui fait face à toute épreuve, qui se relève même quand elle a des échecs ou des difficultés, et qui va au bout de soi-même dans toutes circonstances, qui donne le meilleur quand il faut donner le meilleur, et qui va de l'avant quoi qu'il arrive, et même malgré les difficultés de la vie ou les obstacles qu'on essaye de lui mettre en face, tout simplement. Et c'est une personne aussi qui fait son chemin à elle. Parce que voilà, on a tous un chemin et il faut suivre son chemin.
Trop bien. Merci beaucoup, Elodie.
Avec plaisir.
C'était trop top, ce petit moment avec toi. Et puis, on sera tous derrière toi aux Jeux Olympiques.
Merci.
À te soutenir, en espérant que tout le monde maintenant suive le pentathlon moderne. Je passe un appel.
Grave.
et merci beaucoup. Et puis, bah, écoute, je te souhaite plein de bonheur pour la suite.
Merci aussi à toi, Cléo. Et c'était super, ce moment avec toi.
Trop bien. Merci beaucoup. Salut, Elodie.
Ciao.
Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite. That I've never tasted. Try to do the dance I would see in the flames. But just how the phoenix dies, I rebirth. Now it's been a while that I wait to want to remember me. To want to remember me. Yeah, yeah. To want to remember me. To want to remember me. Yeah, yeah. To want.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.